Fabrice Coustet, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de CMC Market. On va parler avec vous de marché, de stratégie sur ces marchés. Peut-être pour commencer, un bilan de ce premier semestre. Est-ce que vous diriez que les investisseurs sont toujours focalisés sur les actions des banques centrales?
Oui, plus que jamais, on regarde avec attention ce qui se passe du côté des gouverneurs des banques centrales, Mario Draghi du côté de la BCE et Ben Bernanke du côté de la Fed. Ce qui est intéressant, c'est de noter que les discours aujourd'hui sont pratiquement à l'opposé, avec un Bernanke qui est en train de retirer ou d'essayer de penser à la fin de la liquidité, d'une politique accommodante, alors que Draghi donne les signes, au contraire, du long terme sur cette politique ultra accommodante de la BCE, avec des taux qui vont rester très bas pendant encore des années.
Alors, on sait que du côté des actions, justement, de la Banque centrale et côté États-Unis, notamment avec ce qu'a dit la Réserve fédérale, les investisseurs ont commencé à prendre peur. Et vous aviez dans un commentaire dit, mais c'est pas anormal que la Banque centrale commence à faire, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle si, effectivement, elle commence à changer de politique monétaire. Ça voudrait dire que l'économie américaine va mieux.
Tout à fait, on est dans un système assez paradoxal où finalement les bonnes nouvelles de la macroéconomie vont impacter négativement le moral des investisseurs et faire baisser finalement les marchés financiers. Donc dès lors que Bernanke a dit voilà, on pense peut-être éventuellement à commencer à baisser le niveau des liquidités, qui est très important, hein, 85 milliards de dollars par mois sont injectés pour le rachat de titres, eh bien dès lors qu'on débrancherait cette pompe à billets, les marchés ont pris peur et on a vu effectivement une franche baisse. Alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a évidemment les États-Unis, mais il y a aussi de l'autre côté du monde la Chine qui commence à inquiéter, il y a un ralentissement. Là aussi un peu pour les mêmes raisons, la Chine essaye de freiner un petit peu une expansion monétaire hors de contrôle, on parle de shadow banking, c'est-à-dire de crédits qui seraient délivrés par les entreprises. Là aussi, il fallait calmer le jeu. Sur le fond, c'est plutôt positif, mais à court terme, c'est vrai que ça fragilise cette croissance qu'on voudrait à 8% au-delà. Elle tombe en dessous et là aussi, les investisseurs s'inquiètent et ça se propage sur l'ensemble des marchés émergents. Donc si on fait le bilan de ces 6 premiers mois, finalement, on a un CAC 40 à pratiquement à 0 ou 1 ou 2% de gain, avec vraiment des montagnes russes, hein, puisqu'on est monté assez haut vers les 4050 points, 75 points au plus haut. Et puis des émergents qui sont plutôt à la peine en ce moment. L'Amérique, au contraire, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, un vrai bon sujet d'investissement. America is back, on peut le dire. L'économie va mieux à travers l'immobilier, à travers l'emploi, et ça va se confirmer. Donc, en contrepartie, on aura le retrait des liquidités, mais il faut prendre un petit peu la longue focale et se dire que c'est un mieux pour cette économie.
Oui, parce qu'il y a des investisseurs qui forcément font un petit peu des parallèles historiques et on se rappelle qu'effectivement les hausses de taux, les remontées des taux d'intérêt hein, dans l'histoire effectivement des marchés en général n'ont pas été favorables, en tout cas immédiatement au marché actions et qu'il y a eu des vrais, ça a été compliqué. On a parlé éventuellement de krach obligataire, on a eu aussi donc ils ont en tête ça et se disent ça ne se passera pas bien.
Exactement. 1994, krach obligataire. On rappelle le contexte qui est quand même différent. À l'époque, on décide de remonter assez brutalement les taux d'intérêt et effectivement, ça provoque un effondrement sur l'obligataire et à ce moment-là, conjointement, un effondrement des actions, moins 30%. Donc tout le monde, je crois aujourd'hui, les investisseurs ont en tête ce traumatisme, même s'il y a près de 20 ans que ça a existé. La bonne carburation à trouver pour Bernanke, et ça ne sera pas Bernanke, ça sera probablement son successeur en 2014, ça sera de remonter, si l'économie va mieux, les taux très progressivement, d'abaisser évidemment le niveau des liquidités pour que effectivement il n'y ait pas de dérapage sur l'obligataire. N'oublions pas que les États-Unis, au même titre que l'Europe, est très largement endettée, donc ils n'ont pas non plus intérêt à se retrouver avec des taux d'intérêt extrêmement élevés.
Alors, si on revient un instant du côté de l'Europe, on pourrait dire que ça faisait quelques semaines qu'on ne parlait plus des taux souverains. Et puis, il y a le Portugal qui s'est rappelé à certains investisseurs, à beaucoup d'investisseurs, avec des questions sur effectivement la crédibilité ou non, ou la manière dont le Portugal peut sortir de cette crise. On retrouve donc un pays périphérique à nouveau en crise en Europe. Est-ce que c'est, de votre point de vue d'investisseur, c'est grave? Ça peut remettre à nouveau ce sujet-là durant l'été?
Alors, il faut rembobiner un petit peu l'histoire. C'est vrai que si on se projette en juillet 2012, on était au bord de la faillite. Souvenez-vous, le CAC était à 3000 points. Et on a un Mario Draghi qui a dit: attention, nous on fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro et les pays de la zone euro. Un an après, on est quand même dans une situation très normalisée où la liquidité bancaire est revenue. Alors certes, aujourd'hui, il y a des tensions sur les taux. Et c'est assez normal parce que finalement, les programmes ont été lancés, mais l'austérité dans ces pays a été très forte. Et on s'aperçoit que les grands pays sont en train de faire une pause dans l'austérité. Donc on se dit, si les grands pays font une pause, par exemple la France, qui obtient un délai pour atteindre ce fameux déficit des 3%, eh bien c'est normal de faire un effort également pour les pays dits périphériques, donc le Portugal, demain pour l'Irlande, ou encore la Grèce, et ultimement l'Espagne. Donc pause dans l'austérité, parce qu'aujourd'hui on a réalisé que trop d'austérité tue complètement la croissance et augmente en fait la récession. Donc ça, c'est très positif également. Ça va prendre du temps. On est de toute façon dans des politiques d'assainissement budgétaire. Ça va prendre des années et c'est pour ça que la BCE est très accommodante encore une fois.
Alors tous ces mouvements ont aussi eu de l'impact sur les matières premières ou sur l'or. Là, on a vu des vrais changements, les investisseurs changer un petit peu leur point de vue sur l'or. Alors on a vu clairement une baisse assez spectaculaire. Est-ce que ces mouvements peuvent continuer justement?
Nous, on a beaucoup de clients qui sont positionnés sur l'or, qui ont été donc très très inquiets ces derniers temps. On rappelle qu'au début de l'année, l'or était à 1 800 $. Aujourd'hui, on est sur les 1 200. Donc on a perdu près de 30-35% sur l'or. Et puis on a également des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont de l'or physique. Alors il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est que l'or papier est en train de baisser. Mais si vous essayez d'acheter un lingot au coin de la rue, on ne vous le vendra pas au prix actuel. C'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre le marché physique et le marché de l'or papier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des flux gigantesques qui s'étaient investis sur l'or papier. Aujourd'hui, la bulle est en train de se dégonfler. Notre avis, c'est que ce dégonflement de la bulle or est temporaire. On ne va pas peut-être retrouver tout de suite les 1 800 $, mais on devrait à la fin de l'année retrouver les 1 400-1 500 $ sur l'once d'or.
Alors sur les matières premières, on peut penser justement à ce qui se passe en Chine. Clairement, compte tenu de l'importance de la Chine sur beaucoup de matières premières, ça a eu un impact effectivement significatif.
Oui, la Chine, c'est le catalyseur principal pour les matières premières. Si tout va bien en Chine, à ce moment-là, on a pas une pénurie, mais une tension sur les matières premières et les cours flambent. En ce moment, c'est plutôt l'inverse. On a une décroissance relative de la Chine, 7,7% au lieu des 8% attendus, mais effectivement, immédiatement, ça a un impact non seulement sur les matières premières, mais également sur tous les exportateurs. On voit aujourd'hui que certains groupes industriels sont un petit peu à la peine parce qu'ils s'étaient beaucoup positionnés en Chine et la Chine est en train de ralentir.
Peut-être en conclusion, quelques conseils pour les investisseurs quand il y a 2 mois d'été qui arrivent, comment on se positionne, quelles sont les principales attentions qu'il faut avoir dans des marchés peut-être un peu plus volatiles?
Alors il y a plusieurs stratégies évidemment pour protéger son portefeuille. La première stratégie, elle est jusqu'au boutiste, vous vendez tout et vous revenez en septembre pour réinvestir, mais c'est assez coûteux. La seconde, c'est de sélectionner les valeurs qui sont les plus volatiles et de positionner des ordres stop, c'est-à-dire que si la valeur baisse trop, à ce moment-là, elle sera automatiquement vendue grâce à votre ordre qui sera en cours. Et puis la troisième, c'est de couvrir votre portefeuille, éventuellement avec des produits dérivés, tels que les CFD, les options, des choses qui ne sont pas forcément complexes, qui ne sont peut-être pas très connues du grand public, mais qui sont très simples à utiliser. Et là, y a pas mal de gens qui sont sur le marché pour vous aider à le faire. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on recommande quand même certaines valeurs qui nous paraissent pouvoir bénéficier en ce moment même de ce contexte difficile. C'est des valeurs un peu tout temps qui ont du pricing power. Nos préférés, c'est sur 3 secteurs, c'est très différent. C'est Sanofi, dans le secteur de la santé, c'est Essilor, les lunettes, et enfin c'est Bureau Veritas, la certification.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Fabrice Coustier. Rappel, vous êtes donc directeur général de CMC Market.
Merci.